Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Salut les amis et merci d'être avec nous. Et bien voilà, la quatrième édition du salon immobilier bas carbone va avoir lieu au Grand Palais. Les travaux ont été faits, un écrin magnifique et on ne pouvait pas faire moins que de s'y donner rendez-vous. C'est la quatrième édition du salon. On va en parler comme d'habitude, comme chaque année. On va vous donner envie de venir. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas la possibilité de venir, ce qui serait quand même pas bien, c'est vous pourrez écouter bien évidemment Radio Immo, Radio Territoria. On sera sur le salon pendant les deux jours. Pour parler de cette quatrième édition, j'ai le plaisir de recevoir celle qui a fondé l'événement, qui l'a créé. Aujourd'hui, elle est à la tête du CIPCA, c'est Périel de Riche.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Périel.
Merci.
Je suis ravi d'être avec vous.
Pareillement.
Et merci encore, puisque on vous accompagne depuis le début et on connaît votre fidélité et votre loyauté. Merci, on est très heureux avec Radio Immo et Radio Territoria de vous accompagner encore une fois cette année. Merci de nous faire confiance. Également, notre super rédactrice en chef éditorialiste qui est avec nous, Bérénice Deville.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Bérénice?
Mais ravie d'être avec vous pour parler de ce sujet. C'est un salon que j'apprécie particulièrement. Un sujet très important, malgré ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc voilà, ravie d'être avec vous pour en discuter.
Absolument. Et Dieu sait que le bas carbone ou la décarbonation dans les circonstances actuelles, le climat, ça résonne quand même beaucoup. On avait souhaité que des professionnels soient avec nous pour nous donner aussi envie de venir au salon, les amis. Des personnes qui ont chacun un périmètre d'activité. On a le délégué général de l'Union nationale des aménageurs qui est avec nous. Bonjour Charles-Henri Dubois-Béranger, merci d'être avec nous.
Bonjour, et ben merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis également très content que l'UNAM puisse participer au CIPCA pour la deuxième année consécutive. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vraiment un événement de la rentrée en plus. Un événement très important, je pense, pour toute la filière immobilière et plus largement aménagement du territoire.
Merci en tout cas d'être avec nous. On va parler justement de ce sommet des territoires qui aura lieu, d'ailleurs, je le rappelle, pendant le CIPCA, donc qui aura lieu le 3 et le 4. Et le sommet des territoires est prévu le 4 en fin d'après-midi. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Un grand monsieur de l'énergie est également avec nous. C'est Alexis Goldberg. Bonjour Alexis.
Bonjour Sylvain. Écoutez, moi je suis ravi d'être ici en ce jour parmi vous pour parler d'un partenariat plein de sens.
Vous êtes directeur commercial pour Engie Solutions en France. Merci d'être avec nous. Engie, bien évidemment,
on connaît.
On connaît. Et vous êtes surtout le partenaire du CIPCA. Justement, j'aurais qu'on commence par vous, Alexis. S'inscrire dans un partenariat comme celui-là, qui est un partenariat stratégique, puisque aujourd'hui, le CIPCA, c'est the place to be. Hein, c'est très clair. Vous êtes dans la décarbonation, que vous soyez opérateur, installateur, opérateur immobilier, il faut aller au CIPCA. Il n'y a pas poteau. C'est quoi l'objectif, justement, quand vous nouez ce type de relation? Je sais que vous êtes très axé sur le contenu, et le CIPCA est un salon de contenu.
Alors, c'est un salon de contenu. Bon, il porte très bien son nom, puisque c'est le salon bas carbone. Chez Engie Solutions, nous, on accompagne les territoires justement en déployant des solutions bas carbone et on cherche même à aller vers le carbone neutre. Donc, il était évident qu'il fallait qu'on s'intéresse aux territoires, mais surtout au monde de l'aménagement, aux bâtiments, aller même jusqu'à l'usage, pour comprendre les solutions qu'on doit déployer et puis surtout appréhender les pas de temps. Parce qu'il y a une histoire de temps dans des programmes immobiliers qui se construisent. On ne les construit pas pour une année, on les construit pour des décennies. Et je pense qu'on a tous en tête ce besoin impérieux de s'adapter face à un réchauffement climatique qui est de plus en plus prégnant. Je pense que les semaines passées ont témoigné des canicules qui vont être de plus en plus fréquentes. Donc de plus en plus chronique et importante.
On est passé de la passoire thermique à la bouilloire thermique.
À la bouilloire thermique, c'est vrai que c'est fou, le nouveau mot. Ouais, et avant, on parlait d'îlots de chaleur urbain. Maintenant, on parle de surchauffe urbaine, vous voyez.
Ouais,
donc voilà, il est évident que nous, on déploie tout un tas de solutions. Et je pense que j'y reviendrai un peu plus tard. Et notamment, je vous parlerai des réseaux de froid, entre autres. Mais ce qui était important dans ce partenariat, c'était aussi de pouvoir d'évoquer toutes les solutions les solutions aussi bien passives qu'actives dans la ville d'aujourd'hui et celle de demain.
Voilà. C'est important que des groupes comme Engie soient partenaires d'un salon aussi stratégique que le CIPGA. Vous n'êtes pas peu fier, effectivement, de ce partenariat. Feriel, on se connaît depuis quelques temps maintenant. C'est la quatrième édition. On peut le dire, c'est une vraie réussite et on ne se fait pas de la méthode couée. Est-ce que vous avez conscience qu'aujourd'hui, tout cet écosystème fait du CIPGA la grande rentrée, si j'ose dire les choses comme ça? Puisque nous, la semaine précédente, on sera à Roland-Garros pour la REF du MEDEF. On fait l'ouverture de la rentrée économique des entreprises de France. Et la semaine d'après, on est avec vous au Grand Palais. Est-ce que vous avez cette impression que tout cet écosystème attend impatiemment l'édition du CIPGA 2025 ?
Avec beaucoup de modestie, je dirais que oui. Pour répondre à votre première question aussi, si nous sommes pas peu fiers en tout cas d'avoir des énergéticiens à nos côtés comme Engie Solutions, je dirais qu'en fait, tous se sont manifestés et ont souhaité être présents au CIPGA. Alors, ça s'est fait progressivement, hein, ce sera que la quatrième édition. Mais l'an dernier, finalement, Engie Solutions était là, je peux le dire aussi, Fraîcheur de Paris, était présent, hein, c'est la même maison. En fait, tous portent des solutions concrètes. Donc, on vient regarder au CIPGA, on vient observer, et l'année suivante, on se dit forcément, il faut qu'on y soit. Et c'est vrai qu'il y a, un effet... Je ne vais pas dire de masse, parce que l'effet reste très qualitatif. Les acteurs présents sur le salon mesurent le pourquoi du comment de leur présence. On ne vient pas pour dire on est là, on vient pour dire nous on porte de vraies solutions. Et c'est le cas d'Engie Solutions, c'est le cas de solutions notamment qui sont... qu'ils ne soient pas d'actualité, hein, avec ce réchauffement climatique et ce sujet d'adaptation... de nos bâtiments, il faut qu'on arrive à s'adapter à ce réchauffement.
Quelle est la typologie justement des... Si on devait classer les exposants, il y en a combien à peu près cette
250
année
d'exposants ? Oui, 250 exposants attendus cette année. C'est incroyable, ouais.
On a démarré à combien
au début ? On a démarré à précisément 84 exposants, sans compter les filiales. 84, quelques-uns qui ont été refusés. On aurait dû être une centaine. C'est la première année, mais on a dit, allez, c'est bien ce que vous faites, mais c'est pas encore concrètement ça. Donc revenez l'année suivante.
C'est un gros succès, hein, on peut le dire, vraiment. Je veux dire, est-ce que vous vous attendiez à cela? Parce que vous êtes une professionnelle de l'événementiel. Vous avez monté des événements partout en France et en Navarre, et même ailleurs. Vous attendiez, parce que c'était un pari, hein, sur le papier, ça n'existait pas, hein, from scratch, hein, on est d'accord.
On est parti from scratch.
Avec le partenariat de l'association.
Avec, l'association EBCA qui a été la carte qualité et garante des premiers exposants. Voilà, parce que de toute évidence, en fait, il y avait déjà une centaine d'acteurs labellisés par EBCA, à l'échelle de l'enveloppe du bâtiment, de l'exploitation ou autre. Donc, tous sont dit, on va venir. C'est l'occasion de dire, nous, on est vraiment bas carbone et on peut parler de réalisations concrètes, emblématiques et exemplaires. Mais il est vrai que oui, on est parti from scratch. On a souhaité un salon de contenu. Alors d'un côté, les trophées BBCA qui sont devenus les trophées du CIPGA aujourd'hui, les grands prix aussi de l'immobilier bas carbone qui auront lieu cette année. Mais surtout, moi, j'ai souhaité un très très large programme éditorial, des sommets, des événements de networking et de matchmaking, parce que oui, je connais les salons, oui, je connais tous les acteurs présents. Et on a tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne, de la maîtrise d'ouvrage public, privé, à maîtrise d'œuvre, jusqu'à la toute petite solution, en passant par les investisseurs, tout le monde est sur le CIPGA. Et j'ai souhaité des événements vraiment dédiés pour qu'on puisse se rencontrer aller plus loin ensemble. C'est là qu'il est unique, cet événement, et je pense que c'est ce qui a fortement contribué à son succès, en fait. Parce qu'il n'y a pas un salon qui regroupe tous ces acteurs, toute cette chaîne de valeur, et qui propose des événements ciblés, où on puisse se rencontrer les uns les autres. Mais c'est même pas ce que j'ai créé, je vais vous dire, c'est ce que je crée avec les partenaires chaque année. Parce que voilà, on va parler tout à l'heure du sommet des territoires, mais quand je vois la manière dont on travaille avec l'Union nationale des aménageurs, avec Engie Solutions, avec le CEREMA, avec la CET, avec la CEGAT, on s'écoute mutuellement. On se dit, tiens, il y a des besoins, ce serait bien qu'on parle de ça. Et vraiment, on co-construit les choses. Et je crois que c'est ça dont je suis le plus fière, la plus fière. C'est de me dire, finalement, on a une écoute mutuelle parce qu'on est tous des passionnés. On est tous engagés dans le même objectif.
C'est extrêmement clair. Je vois que la passion ne s'est pas érodée. Vous savez ce qu'on dit ? On dit la première année, on vient pour voir. La deuxième année, on vient pour confirmer. La troisième, pour vérifier. Au bout de quatre ans, ça y est, c'est fait. On peut dire qu'aujourd'hui, dans le paysage, il y a le CIPCA. Bérénice, on va faire le tour un petit peu d'horizon avec nos amis, justement, sur les événements marquants. Il y a d'abord cet événement majeur, c'est que vous menez, Charles-Henri, c'est le sommet des territoires. C'est d'ailleurs vous, Bérénice, qui allez vous y coller puisque vous allez animer ce sommet des territoires. On va en parler maintenant, si vous voulez bien, avec Charles-Henri.
Oui. Je vais peut-être vous laisser Charles-Henri, alors ce sera le 4 septembre le sommet des territoires.
Voilà, donc l'Union nationale des aménageurs, d'abord je voudrais quand même rappeler que c'est la fédération des aménageurs, c'est la maison de tous les aménageurs, qu'ils soient publics, privés, bailleurs sociaux qui réalisent également des opérations d'aménagement. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, si le salon s'était appelé le SAPCA, ça aurait été encore plus évident, le salon de l'aménagement bas carbone. Mais déjà, l'immobilier, évidemment,
ça, c'est très bon.
L'aménagement en fait bien
c'est
entendu bon. Partie, et je dirais même, et en amont des opérations immobilières. Parce qu'en fait, quand on est aménageur, on a d'abord une vision de l'aménagement du territoire avant d'aller implanter tel ou tel type de bâtiment, tel ou tel lot, tel ou tel... activité. Donc de ce point de vue-là, le bas carbone en tant qu'aménageur, il est plutôt sur le sujet de la réflexion urbaine, de la réflexion de l'aménagement du territoire en amont de solutions peut-être plus pratiques.
Est-ce que l'UNAM est une organisation professionnelle ?
Bien sûr, c'est une fédération effectivement, une fédération professionnelle avec une vocation, comme on pourrait dire, syndicale de représentation auprès des pouvoirs publics, mais
syndicale
également
patronale.
Syndicale, représentation d'un métier, d'une filière professionnelle.
D'accord, comme le...
Et avec donc la représentation auprès des pouvoirs publics, donc faire des propositions le plus constructif possible. C'est là où on est peut-être moins syndical que des syndicats, j'allais dire d'autrefois, où on essaie réellement de dire, ben voilà, on connaît les problématiques budgétaires de l'État et aussi les contraintes que tout le monde partage maintenant, qui sont nécessaires sur justement le bas carbone et le climat. Et donc, plutôt que de voir tout cela comme une contrainte, nous, on essaye de faire entrer les carrés dans les ronds, de faire des propositions un petit peu créatives, un petit peu différentes, pour montrer que l'aménagement est une...
Justement, quelle est la mission d'un aménageur ? Qu'est-ce que fait un aménageur en quelques mots ?
En 2025.
Oui.
En 2025, l'aménageur, c'est toujours pareil. En fait, il travaille un projet urbain sur un terrain donné, un terrain qu'il acquiert, qui peut être porté en amont par la puissance publique, comme les EPF. Établissement public foncier. Et donc, il imagine un projet urbain avec l'ensemble des acteurs qui seront concernés par les différents lots qui ont été dessinés. Donc aujourd'hui, les opérations pour la plupart sont des opérations mixtes, activités, logements, équipements publics. On ajoute également maintenant les sujets de la nature en ville. Donc voilà, il y a plein de notions maintenant qu'on essaie de...
Il peut y avoir du commerce, de la restauration,
évidemment du commerce,
de l'hôtellerie, du
des activités de loisirs, du sport.
On est sur une vraie mixité.
Voilà, et quelle que soit la taille. Et quelle que soit la taille, et quelle que soit la typologie.
Même pour les plus petits projets, c'est vrai que c'est un espèce de puzzle, hein. Il faut emboîter tout ça et convaincre aussi. Enfin, c'est vrai que le rôle de l'aménageur est vraiment central.
C'est intéressant. Vous êtes la pierre angulaire, finalement, de la fabrique du territoire.
En fait, il est aussi, le rôle de l'aménageur, c'est de montrer à l'élu, d'accompagner l'élu presque dans l'argumentaire qu'il va développer auprès de sa population. Qui n'accepte pas toujours des nouveaux projets, à part pour elle-même, évidemment. Et donc, c'est aussi cette manière d'accompagner en exprimant les enjeux qu'il y a autour de chaque projet et de montrer qu'il y a de l'intégration urbaine, qu'il y a un certain nombre d'aménités qui vont faire partie de l'opération et qu'elle peut même résoudre un certain nombre de sujets. On parlait de surchauffe urbaine, de nature en ville, de biodiversité. Voilà, les opérations d'aménagement, parfois, du fait qu'on parte aussi un peu de zéro, permettent de réaliser davantage... davantage de répondre à ça, de résoudre des problématiques là où parfois la réhabilitation c'est plus compliqué parce qu'il y a des questions aussi liées au patrimoine, liées au temps, il y a des questions architecturales. Donc là, l'aménagement, on a une nouvelle newsletter qui s'appelle Cartes sur table. Je vous invite chacun à vous abonner, qui sort toutes les deux semaines. Et le dernier sujet. Et
on peut y accéder facilement sur votre site.
Sur notre site. Et
sur le site de l'UNAM.
Voilà, vous mettez votre mail et vous tombez
unam-territoire.fr.
On en refera un peu la promo au CIPCA, évidemment. Oui. L'objectif, c'est de prendre un petit peu de recul toutes les deux semaines sur un sujet donné. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir parler d'aménagement dans les dîners en ville. Ce qui est quand même plutôt rare. Et normalement, on a tendance soit à nous couper la parole, soit à voir nos interlocuteurs s'endormir. Et donc, voilà, quand on parle d'aménagement, pour autant, on parle de sujets hyper concrets.
C'est vrai que sur le papier, quand on y réfléchit bien, ça ne fait pas rêver. Parce que les gens ne connaissent pas, en fait, en réalité. Mais votre métier, en fait, il est passionnant. Parce que vous êtes ce qu'on appelle un métier polytechnique. C'est-à-dire que vous travaillez sur tellement de techniques, au sens étymologique du mot, que c'est un métier passionnant. Et je trouve ça très bien que vous acceptiez de venir vous exprimer, parce que c'est une façon aussi d'attirer la jeunesse vers des métiers qui sont parfois des métiers un peu méconnus ou pas toujours bien intégrés dans le paysage. Justement, on va parler de... Parce qu'on est quand même en 2025, on est dans un climat particulier dans la construction de la ville et notamment du logement. Est-ce que ça a amené aussi l'UNAM à réfléchir différemment sur sa façon d'appréhender son métier au même moment où les promoteurs aujourd'hui réfléchissent sur une nouvelle façon de travailler, sur ceux qui font de la régénération urbaine également?
J'allais revenir du coup sur la newsletter dont je vous parlais. Et si on prend les trois premiers sujets, donc elle a été lancée le 11 juin, le jour de notre congrès, qui est à la Cité de l'Architecture. Là aussi, c'est un signal sur la qualité des opérations d'aménagement, en tout cas que l'UNAM défend. Les trois premiers sujets ont été aménagés autour des gares comme priorité, y compris les gares rurales et périurbaines d'ailleurs. On a la question de la montée des eaux, comment on aménage, comment on fait face à la montée des eaux, comment on l'anticipe. Et donc le dernier, c'est l'aménagement avec les canicules et la surchauffe urbaine. Et comment l'aménageur, justement, est attendu au tournant de ce type d'opération. Donc on voit, ne serait-ce que par ces trois premiers sujets de ces newsletters, qu'on est effectivement déjà complètement dans ces sujets.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai la solution pour la montée des eaux. On monte une arche.
Pourquoi pas, ça viendra.
Humour. Alors justement, on va égrener, on va revenir sur le salon des territoires. Les enjeux, quand on s'appelle NJ Solutions, ils sont majeurs dans le pays, mais dans le monde, bien évidemment. Aujourd'hui, justement, quand on s'appelle comme ça NJ et qu'on aborde le sujet de l'habitat et des zones urbaines, quand on sait qu'aujourd'hui, en 2050, on prévoit que 80% de la population mondiale vivra dans des zones métropolitaines. On peut parler même d'hypermétropolisation. Cependant, on observe quand même des mouvements sociologiques qui font qu'il y a une démétropolisation progressive au profit, par exemple, des villes moyennes. En fait, on redécouvre finalement les vertus des territoires qui étaient un petit peu désertifiés. C'est pas un exode urbain, hein, mais on en parle un peu. Comment vous approchez justement ces phénomènes à la fois autour du climat? Et comment, chez Engie, vous articulez votre stratégie, notamment à travers des événements comme le CIPCA, où vous rencontrez finalement la planète de la décarbonation, si je devrais m'exprimer ainsi?
Alors, c'est évidemment très intéressant de travailler les granulométries urbaines, hein, donc l'hypermétropole, la ville-centre, et puis ces territoires périphériques, et de voir comment tous ces écosystèmes vont finalement... se comporter, comment on va pouvoir vivre. Moi, j'aime bien ce que vous avez dit. Hein. Vous avez parlé d'aménités urbaines. C'est pas un concept. C'est-à-dire, ces aménités urbaines, on doit les créer. Arriver à compenser ce qu'on génère en rendant la ville finalement plus vivable, plus désirable et plus attractive, bah, en fait, c'est ça notre but chez Engie. Quand on s'intéresse au territoire, quand on s'intéresse justement à la partie bâtimentaire bas carbone. Et ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il va y avoir des populations qui vont migrer vers ces grandes villes, ces métropoles. Et d'un autre côté, il va y avoir aussi un effet de balancier où la ruralité va devenir aussi essentielle. C'est-à-dire qu'il y a une quête de sens à partir de l'hypercentre. Et alors nous là-dedans, quel est notre rôle ? Nous, on est des architectes énergéticiens. C'est-à-dire qu'on doit aussi bien penser au fonctionnement énergétique d'une ville de 300 000 ou de 100 000 habitants à un bourg qui aura peut-être moins de 5 000 habitants.
Aujourd'hui, vous êtes avec un maire d'un centre-bourg de 8 000 habitants, ouais. Et après-demain, vous êtes une grosse agglo de 500 000 ouais. habitants.
C'est notre quotidien. Ouais. Donc,
c'est génial.
C'est génial. Évidemment,
un peu schizophrénant, mais génial.
Évidemment, les problématiques ne sont pas les mêmes, parce que quand on parle de surchauffe urbaine, quand vous allez dans le petit bourg, c'est différent. Cela étant, le plus 4 degrés, il sera pour tout le monde.
C'est clair.
Et donc, ce plus 4 degrés par rapport à l'ère industrielle.
Mais justement, Alexis, est-ce que l'heure est à la déminéralisation de la ville ? On en parle beaucoup. Alors, aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle, par exemple, il y a une chose qu'on a vue quand on est allé dans les villes de France avec les élus, on a vu les oasis dans les lycées, vous savez, les petites oasis. Je trouve ça génial. J'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire, on débitume complètement et on crée un éosium. Alors, il y a une différence de 3 à 4 degrés.
Oui, alors justement. Ça, il faut y revenir parce que c'est une très bonne transition pour ce que je vous disais en préambule, à savoir les solutions dites passives. Donc la solution dite passive, c'est par exemple la végétalisation.
En fait, on réinvite la nature en ville.
Il y a le CEREMA qui a fait une étude pointue là-dessus et qui est arrivé à des conclusions où effectivement, quand vous allez végétaliser une cour d'école, ça a été le cas d'études à Libourne.
J'étais à Libourne. C'était là le congrès Ville de France avec Philippe Buisson, le maire de Libourne, qu'on a couvert d'ailleurs début juillet avec Grégoire Daricot. On a vu, j'ai trouvé ça absolument.
Donc vous êtes à Libourne.
Oui.
Vous réveillez le matin, il fait 20 degrés. Puis il commence à faire déjà chaud. Et puis en fin de journée, il va faire 30 degrés.
Exact.
Le fait d'avoir végétalisé, vous allez avoir un différentiel au bénéfice des gens qui vont être dans la cour de l'ordre de 4 degrés, 4 voire 5 degrés. Ça, c'est quand la température monte jusqu'à 30. Par contre, quand vous dépassez les 35 degrés, c'est zéro. Il n'y a plus d'effet de fraîcheur. Il n'y a plus du tout d'effet de fraîcheur.
Expliquez-moi ça.
Alors, je vais pas aller dans l'explication de l'évapotranspiration.
On vous l'expliquera aussi clairement.
Quand on arrive à des degrés élevés de température, il n'y a plus l'effet bénéfique de la fraîcheur.
C'est ça, je comprends.
Du végétal. Alors, il y a toujours un effet d'ombre portée, mais en tout cas, vous n'avez plus...
Bien sûr.
Vous ne bénéficiez plus de ça. Ça illustre aussi d'autres solutions qui fonctionnent.
Par contre, l'effet de capture du carbone, ça...
Il y a zéro doute par rapport à la température. Mais en tout cas, et là c'est pas moi, ce sont des scientifiques qui ont conduit des études et qui donnent ces résultats. On entend aussi parler de peindre les toitures en blanc.
En blanc avec une molécule qui réfléchit
albédo,
la lumière.
Voilà.
Vous en avez entendu parler de ça ?
Bien sûr,
c'est génial. Hein.
Depuis des millénaires, on utilise ça.
Oui, c'est ancestral en fait. Ça vient.
Ça
on fêtera les 10 ans de Coolroof, par ailleurs aussi.
Oui,
ces toitures blanches à base d'huîtres.
C'est extraordinaire.
Il fait trop leur 10 ans sur les
salons. Alors c'est vrai que vous allez en Corinthe. Vous allez, par exemple, à Mykonos ou à Zakynthos.
Même au Maroc, à Tanger.
Au Maroc, vous allez par exemple en Tunisie, sur l'île de Djerba, où tout est en blanc. Et c'est vrai qu'effectivement, ils avaient déjà pensé à la réflexion de la lumière avec les...
Voilà, effectivement, c'est un effet très positif quand c'est mis en toiture. Maintenant, quand c'est blanc partout, vous ne vous baladez pas à midi en plein soleil, parce que là, c'est moins supportable. Le sujet, c'est que toutes ces solutions mises bout à bout ont leur effet, mais elles ont aussi leurs limites. C'est-à-dire que si vous continuez de déployer des climatiseurs dans des axes minéralisés, vous peignez quand même vos toitures blanches et vous végétalisez, je suis désolé, mais vous continuez de contribuer à ces effets de chaleur urbaine.
Comment on peut s'affranchir de ça? Est-ce qu'on pourra un jour s'affranchir de ça?
Oui. Oui, alors on peut déjà le faire, parce que vous prenez le cas de Paris. Paris a déployé et va continuer de déployer un réseau de froid, qu'on appelle les réseaux de froid, qui permettent justement de rafraîchir des bâtiments, de venir capter la chaleur, sans avoir ces phénomènes où on rejette de la chaleur dans les rues.
Comment ?
Eh bien, en allant capter la fraîcheur, par exemple, de la Seine. À Paris, on vient capter la fraîcheur de la Seine pour rafraîchir des bâtiments.
Et pareil, l'hiver, pour le chaud, ils viennent capter, enfin, il y a des...
Alors, pour la chaleur, il existe effectivement des systèmes de stockage intersaisonné et de stockage sous terre. Ce sont des systèmes qui se déploient partout en Europe. On appelle ça la géothermie. Et là, en l'occurrence, ça peut être apparenté à de la clustrothermie. On a même de la thalassothermie à Marseille. À Marseille, on rafraîchit des bâtiments grâce à l'eau de mer, avec la fraîcheur de l'eau de mer. Et demain, à Cannes, on rafraîchira le Palais des Festivals avec la fraîcheur de l'eau de mer. Donc, il existe des solutions. Aujourd'hui, chez Engie Solutions, on déploie ce type de solution. On opère 11 réseaux de froid en France. En France, il y a 43 réseaux de froid. Nous, on opère plus d'une centaine de réseaux dans le monde. On est leader sur ce marché. Et donc, ce sont des solutions qui sont matures, qui vont consommer deux fois moins d'énergie, deux fois moins d'électricité qu'une solution autonome, que le climatiseur que vous avez dans le magasin ou dans l'immeuble, deux fois moins. Ça va émettre deux fois moins de carbone. Et en plus de ça, vous avez certainement dû entendre parler des fluides frigorigènes.
Oui.
Un très haut pouvoir de réchauffement. Une solution, par exemple, de réseau de froid urbain va émettre 10 fois moins de fluides frigorigènes qu'une solution autonome.
C'est l'avenir.
Et demain, vous parliez des start-up.
Oui.
On a un pays fantastique.
Ah oui.
Je l'ai dit.
C'est vrai, quand on écoute, quand on écoute les solutions, on a un pays d'entrepreneurs,
on a un pays de start-upers. J'étais à Vivatech, j'étais sur
le stand
Engie.
Ça serait bien que le gouvernement s'en souvienne de temps en temps. Mais
J'étais sur le stand Engie de Vivatech. On exposait une des solutions dans laquelle on a investi, qui s'appelle Alpinovix, et qui va créer des groupes froids qui vont fonctionner avec un fluide frigorigène naturel de l'eau. Ça va fonctionner avec de l'eau. Donc, plus des CFC, plus des fluides réfrigérants, ça va fonctionner avec de l'eau. Donc là aussi, on va être...
Mais ça, ces solutions, est-ce qu'on peut les déployer partout ou c'est... Parce que vous parlez de Marseille, de la Seine, mais est-ce que
aujourd'hui,
c'est...
Aujourd'hui, ce sont des startups, donc forcément, il y a des phases de test, mais qui sont très prometteuses. Vous parliez de Cool Roof, c'était très prometteur, et maintenant, c'est une solution qui se déploie grandement. Nous, on essaie de développer des solutions qu'on appelle low-tech, high impact. On veut faire des solutions qui soient abordables, et puis facilement déployable demain.
Moi, je trouve ça, ce que je trouve remarquable, c'est vraiment important d'avoir le regard des techniciens, mais aussi des professionnels de l'activité, parce que les solutions, on les existe en réalité. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plus grosse émission de carbone, c'est le bâtiment, sont les lieux que l'on occupe, et que de toute façon, il n'y a pas photo. Si on veut aborder 2050 avec une forme, entre guillemets, les optimistes diront qu'on atteindra la neutralité carbone, c'est bien ça qui est prévu. Mais quand on voit aujourd'hui les problématiques d'écart de température, on se dit que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers ces... Est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand on voit, parce que je regardais là, sur les événements du CIPCA, il y a un événement que je vais animer, qui est une grande table ronde, qui s'appelle Habiter 2050. Habiter 2050. Quand déjà en 2025, donc c'est dans 25 ans, dans 2025, aujourd'hui, cette notion, vous n'avez pas vu, cette année, on n'en parle que de ça. Bouilloire thermique. Ce mot, je l'entends beaucoup plus, je ne sais pas si vous avez ce sentiment.
Ouais, parce qu'il y a eu la proposition de loi aussi.
Oui, non mais c'est venu dans un moment dans lequel, finalement, on ne pouvait pas être mieux porté que par le climat extérieur, où on a vu effectivement des problématiques, parce que problématique du climat, c'est aussi une problématique de santé publique. Est-ce qu'on a le sentiment, dans ces événements, que la prise de conscience finalement des élus, elle est forte, elle est puissante, Bérénice?
Bah, elle est de plus en plus. D'ailleurs, la santé est l'une des trois thématiques du salon. Hein. C'est santé, logistique, régénération et rénovation du patrimoine. Donc on voit bien là que la santé, elle est demandée par les, par les professionnels, mais aussi par les politiques. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus.
Enfin, je... Tout à fait.
Ça devient vraiment un axe. Hein.
Ouais. Bah, je pense que c'est en fait la mission de chacun et c'est l'objectif. Ce qu'on fait de bien, eh ben, va impacter la santé de nos habitants quand on est un élu, de nos salariés quand on est chef d'entreprise. Voilà, tout ce qui est à l'échelle du bâtiment, du quartier dans lequel on va vivre. La santé est primordiale, en fait. Elle doit être la préoccupation de tous. Mmh. Et oui, elle est le sujet de préoccupation des élus sur le sommet du territoire qui nous ont clairement fait la demande, et des aménageurs aussi, dont Espace Ferroviaire, qui nous a fortement poussé à mettre ce genre.
Préoccupation des habitants aussi. Hein. Peut-être, alors c'est un effet peut-être Covid, hein, vous parliez justement de cette ville qui doit être confortable, qui doit être désirable, attractive, on doit s'y sentir bien. On en parle énormément depuis les confinements, mais c'est vrai que ça revient et c'est quelque chose de pérenne. Hein. Après, c'est peut-être aux aménageurs de voir ça, mais est-ce que les élus avec lesquels vous travaillez vous font part de cette notion santé qui est dans la tête peut-être des habitants il y a peut-être 10-20 ans, on pensait peut-être moins à sa santé. Là, aujourd'hui, je prends l'exemple des jeunes parents. Les jeunes parents, ils veulent une ville où il y a en effet des îlots de fraîcheur, mais ils veulent du vert pour leurs enfants. Ils veulent moins de pollution pour leurs enfants. On pense beaucoup plus au bien-être, à son propre bien-être, et puis au bien-être de ses enfants, de ses proches. Après, peut-être que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous constatez côté aménageur.
Si, bien entendu, et c'est aussi tout l'intérêt des opérations d'aménagement. Qu'elle soit située en centre-ville, en régénération urbaine ou en périphérie ou semi-périphérie, c'est qu'elle permette de repenser un projet d'ensemble global et pas de replanter trois arbres par-ci ou de repeindre une façade en vert. Et donc, pour avoir un enjeu, pour répondre à cette question des 4 degrés et parfois 8 degrés quand tu es dans des îlots de chaleur, l'aménagement est une vraie réponse structurelle.
Bien sûr.
Mais cette réponse, elle s'articule aussi avec l'intégration de l'innovation, justement, de toutes les technologies. Ouais. Donc vous êtes finalement un peu à la source, entre guillemets, vous captez cette source.
L'aménageur est un agrégateur de solutions. Quoi.
C'est ça. Ça doit être extrêmement intéressant de voir les évolutions. Tous les pays ont le même sujet, on est d'accord? Ça touche pas que la France.
Un petit peu moins depuis quelques temps. Les États-Unis ont clairement remis en cause la lutte contre le réchauffement climatique. Je trouve que la France a ce rôle de garder encore plus le cap, justement, vu ce qui se passe à l'international. Enfin, c'est quand même assez effrayant quand on voit que les États-Unis, ça fait quand même partie des trois pays polluent le plus avec l'Inde et la Chine. Si nous, en Europe, en France, on garde pas le cap, en fait, on va droit dans le mur.
D'ailleurs... l'histoire vous donne raison de toute façon aux orientations des accords de Paris, entre autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2021, à deux endroits de la planète, pendant quelques heures, la vie était impropre à la vie de l'homme, de l'espèce. Je ne sais pas si vous savez. C'est au nord du Pakistan, à Jacobabad, exactement, et en Arabie Saoudite, à deux endroits, c'est le rapport entre la température, ce qu'on appelle la TW, l'humidité, la chaleur fait que en fait on a l'être humain a un mécanisme de sudation naturelle qui permet en fait de garder une certaine température. Mais pour que la sudation se fasse, il faut qu'il y ait un équilibre entre la chaleur et l'humidité. Mmh. Et là, le rythme était rompu et donc dégradation rénale, dégradation des organes vivants, etc. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, alors c'est pas du dramatisme absolu, c'est que la planète sait se rappeler finalement à l'être humain qui est une espèce qui occupe une planète, la planète s'en remettra, peut-être pas l'espèce humaine. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a démontré qu'aujourd'hui, il y a une irréversibilité, finalement, du mécanisme d'atteinte de la neutralité carbone, bien évidemment. Et c'est vrai que vous avez raison. Vous, aménageurs, vous êtes au cœur du réacteur, parce que ça démarre avec vous.
Ce qu'on essaie, en fait, enfin, ils le comprennent, bien sûr, mais les professionnels, quand ils voient les réglementations s'accumuler et souvent s'entrechoquer, se contredire, ils comprennent plus un certain nombre ne comprend plus ou voit vraiment toutes ces réglementations comme des contraintes et des ralentisseurs de projets. Et le rôle de l'UNAM aussi, c'est de leur montrer que c'est une opportunité pour faire mieux que le concurrent ou le voisin. Et en fait, l'élu choisira, quelle que soit la taille de la ville, parce qu'il doit répondre pour ses habitants à des problématiques, l'élu choisira le meilleur projet, en lien avec le bas carbone, la lutte contre le réchauffement.
Là où vous avez fondamentalement raison, c'est que tout bouleversement est propice au changement. On vit des bouleversements normatifs sans précédent, sans précédent. Vous savez, 40 ans que je suis dans ce métier, je peux vous dire que l'inflation normative que l'on vit depuis une quinzaine d'années est absolument phénoménale. Maintenant, c'est agir ou subir. Mmh. Vous avez raison, tout ça permet effectivement aussi d'imaginer ces métiers-là ont une évolution naturelle. Et encore une fois, je le répète, vous êtes vraiment au cœur du dispositif.
Et c'est important de préciser les normes, parce que c'est vrai qu'en France, on est le pays où les normes sont les plus strictes concernant tout ce qui est bas carbone. Par exemple, la RE 2020, RE 2028, 2035, c'est vrai que les promoteurs râlent beaucoup, les professionnels de manière générale râlent beaucoup, hein, parce que c'est des normes qui sont difficiles à tenir, ça coûte cher, mais en même temps, la France montre l'exemple.
Tout à fait, et l'une des choses voilà, que l'UNAM veut défendre, et j'ai même pas encore cité mon président Nicolas Gravy, qui bien sûr pilote toutes ces propositions.
Voilà, qui a pris la tête de l'UNAM de quoi ? Depuis un an, je crois.
Depuis 9 mois, voilà.
9 mois,
il est directeur également, directeur d'EFAGE Aménagement. Ouais. Et parmi les propositions qu'il porte, il y a cette idée, par exemple, de faire une TVA réduite autour des gares, y compris rurales et périurbaines.
Moi, je trouve ça super.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les dépenses de l'État, mais dans une diminution des recettes de projets qui ne se seraient pas faits.
En fait, emmener la population. Vous ne demandez rien à l'État, vous demandez simplement. Vous ne demandez pas d'argent, je veux dire, vous demandez simplement un aménagement.
On emmène la population autour du réseau ferré plutôt que d'avoir des rapports qui veulent fermer les petites lignes chaque année.
Fondamentaux.
Voilà, et y compris, voilà, je réinsiste, en milieu rural et périurbain, pour parler de cet aménagement plus équilibré qui est en train de se faire. Avec un retour dans les villes moyennes, dans les petites villes. Mais pour ça, il faut rendre ces territoires désirables et donc redonner aussi du sens. Et on le proposera également pour les friches. Peut-être que le fonds vert, à un moment donné, aura du mal à résister aux difficultés financières.
Cette année.
Mais si en face, on lui met une réduction de TVA à 5,5 sur les friches, finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire ? C'est que l'État va plutôt, côté ressources, réduire un petit peu les rentrées en TVA.
C'est clair.
En revanche, elle va peut-être moins accompagner sur les dépenses.
On va devoir conclure, parce que voilà, on est déjà ensemble depuis 37 minutes.
Oui, pardon, juste si je puis me permettre, et pour rejoindre aussi ce que disait Bérénice et ce que dit Charles-Henri, la France ne fait pas machine arrière, justement, voilà, par rapport à toutes ces réglementations qui changent et autres. Et on le voit au CIPCA. Et on voit que les Français continuent et sont ultra engagés. Et que les solutions sont partout. Elles sont celles que citait Alexis tout à l'heure en disant « Mais on est un pays, les Français, où on innove sans cesse, on va chercher. » Et vous voyez, les solutions, elles sont aussi portées par les aménageurs, de se dire « Tiens, on ne va pas attendre, on ne va pas se reposer sur les budgets de l'État ou autre, on va aller chercher des solutions, les proposer. » Et vous voyez que c'est à toute échelle. Et c'est là, en vous écoutant tous, je me dis « Mais quelle bonne idée on a eue de créer ce CIPCA, de le lancer pour justement montrer que tous ces acteurs privés, publics, avancent ensemble et continuent. »
Et je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, parce qu'en 2022, la première édition, c'était quoi, 6 000 visiteurs. En septembre, c'est le double.
Le double, on attendait 3 500. Moi, je vais dire, dans les 3 000 visiteurs, l'année 1, on a fait le double. Les salles de conférences étaient pleines. La frustration était énorme, parce qu'on ne pouvait même pas accéder aux salles. Et voilà, et on s'est dit, allez, tant pis, moi je continue avec les sommets, on a créé plein de choses. Et puis aussi, Sylvain, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Alexis l'a dit, les plus 4 degrés, on ne va pas y échapper. Je crois que tout est entre nos mains, à chacun, de faire, d'avoir les bons gestes.
Finalement, on devrait faire reconnaître aussi qu'il y a un statut d'utilité publique et d'intérêt général.
Je l'ai toujours dit.
Ouais.
Peut-être que la localisation au Grand Palais a du sens.
Absolument.
L'exposition universelle qui était pour rentrer dans le XXe siècle. Ouais. Est-ce que ce n'est pas le CIPCA qui fera rentrer dans le XXIe
siècle? Absolument. Ouais. D'ailleurs, il s'en est fallu de peu qu'on démonte le Grand Palais. Rappelez-vous, à l'époque, c'était dans le projet. Et voilà, heureusement, on a réussi à conserver cet ouvrage architectural. Bien évidemment, ça promet en termes de contenu.
Et on va parler de sa rénovation. Vous savez que la soirée d'ouverture du CIPCA, c'est quand même focus sur la rénovation de la Bacarbonne.
Oublier les opérations remarquables, parce que c'est un démonstrateur, le CIPCA. On parlera des opérations remarquables que j'ai le plaisir d'ailleurs d'animer avec l'association Bâtiment Bas Carbone, en compagnie de Stanislas Potier et d'Hélène Genin. Le soir, effectivement, dans la même journée, on remettra également les trophées BBCA avec toutes ces opérations. Bref, réunion, rencontre, networking, business. Parce que rien ne fonctionne sans, bien évidemment, sinon on ne serait pas crédible. Nous, Radio Immo, avec Radio Territoria, ma chère Bérénice, on sera présents pour cet événement, pour cette 4e édition, on en est extrêmement fiers. Je voudrais faire un grand remerciement à Charles-Henri Dubois-Béranger, délégué général de l'Union Nationale des Aménageurs, de l'UNAM. Merci de nous avoir donné un focus sur votre métier, je pense qu'il faut en parler de plus en plus, parce que vous êtes aussi une nécessité fondamentale dans les équilibres territoriaux. Merci d'avoir parlé de ça, on va se donner rendez-vous d'ailleurs au sommet des territoires à l'UNAM. Vous êtes dignement représenté. Merci d'être venu sur le plateau. Un immense merci à Alexis Goldberg. J'ai appris plein de choses grâce à vous. J'aime beaucoup. Non, parce que c'est très technique finalement. Et puis voilà,
c'est très intéressant.
Grand talent d'être pédagogue à ce moment-là. Vous êtes avec nous sur le plateau. Vous venez sur Radio Immo, vous aussi Charles-Henri, vous êtes invité. Radio Territoria, Radio Immo, bien évidemment. Vous allez d'ailleurs animer une conférence, vous allez faire partie d'une conférence sur le cycle du Grand Paris avec les élus, notamment. Ça a lieu le 3 septembre. Toutes les informations sont sur le site internet du CIPCA. Un immense merci à vous, Ferriel de Riche.
Merci à vous.
Voilà, à la fois de la confiance que vous témoignez sur notre média et que vous êtes toujours aussi fidèle au poste. Merci pour ce que vous faites, pour le métier, pour les gens. Et on est ravis, mais un petit clin d'œil pour votre équipe, Audrey, Justin, toutes les personnes avec qui on est au quotidien. Ils sont absolument adorables avec nous. Bérénice, on va se redonner rendez-vous donc le 3 et le 4 septembre au Grand Palais avec Radio Immo et Radio Territoria. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'agrégateur de podcasts, le site de Radio Immo et l'application. Allez-y, elle est gratuite, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez s'appuyer sur le replay. Il y a le lien aussi vers le site internet du CIPCA. On peut encore s'inscrire, Périel.
C'est 3, 4 et 5 septembre. Vous restez deux jours avec nous, mais on a quand même
3,
le 5. Hein, on a des gros sujets.
Septembre.
Et notamment un très très beau sujet, puisque la Guyane est le territoire coup de cœur et à l'honneur du CIPCA. Et sachez qu'il y aura un très beau mouvement, vous le disiez, utilité publique. Et bien moi, mon rêve le plus absolu, ce soit que toutes les générations à venir puissent se rassembler et qu'il y ait un jeune ambassadeur du climat partout, dans toutes les villes, dans le monde. Et c'est le cas. Les jeunes ambassadeurs du climat, c'est un mouvement qui est parti de Guyane. On aura les jeunes ambassadeurs du climat aussi en métropole et partout. Et voilà. Et j'invite tous les jeunes qui nous rejoindront le 5 après-midi dans le cadre de la journée talent, recrutement, stage. C'est grand public, le 5 après-midi, aller à s'engager auprès des jeunes ambassadeurs du climat, parce que ce sera une petite pierre à l'édifice, partout, pour aider au quotidien, à mieux gérer l'impact qu'on peut avoir et n'avoir que de l'impact positif, en tout cas.
Le 3, le 4 et le 5 septembre au Grand Palais, un nouveau Grand Palais magnifique, une œuvre architecturale, vous l'avez dit Charles-Henri, il y a une vraie symbolique sur cet ouvrage absolument incroyable qui était un ouvrage éphémère et qui désormais fait partie du patrimoine français. Merci Bérénice, on va se retrouver sur d'autres programmes, bien évidemment sur Radio Immo et sur Radio Territoria, bien sûr, vous écrivez, vous likez, toujours avec beaucoup de bienveillance. À bientôt.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.